Vous pouvez préparer votre Bible dans le livre des Lévitiques. Est-ce que ce que Dieu a dit il y a 3500 ans à peu près vous intéresse? Ça fait loin quand même. Mais est-ce que c'est intéressant ce que Dieu dit? Bien sûr. Est-ce que ça traverse les âges? Bien sûr. Bien sûr. Alors dans le livre des Lévitiques, ce livre qui a pour thème la sainteté, Lévitique chapitre 13 et verset 1. J'ai eu à cœur vraiment de partager avec vous, de méditer avec vous la loi de l'Éternel, et entre autres ce passage qui nous parle de la loi du lépreux. Je l'ai déjà fait parmi vous, mais j'ai vraiment envie de reprendre ça avec vous. La loi du lépreux. On lit au chapitre 13 et verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau de son corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur, c'est une dartre, il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme, une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas, car il est impur. Amen. Je vois à vos yeux et à vos visages que, avant de dire Amen, vous avez besoin de vous poser et de réfléchir. On va réfléchir un peu à ce texte. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'il représente pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut que l'on comprenne pour nous aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Ça, c'est important. On sait que l'Ancien Testament, la loi de l'Éternel, c'est l'ombre des choses à venir. C'est comme une ombre, on voit une silhouette, on ne comprend pas tout, mais ça représente quelque chose, une vérité spirituelle. Dans la parole de Dieu, il y a des images. Lorsqu'on voit l'épée, on comprend, ceux qui lisent la parole, ceux qui sont un peu avertis sur ces choses, peuvent penser à la parole. L'épée représente la parole, l'épée de l'esprit. L'eau peut parler de Saint-Esprit, elle peut parler de la parole aussi. L'huile parle de l'onction, du Saint-Esprit. Le feu peut parler de l'esprit, toutes sortes d'images comme ça. Les animaux que l'on sacrifiait représentaient le sacrifice parfait, Jésus-Christ. Toutes sortes de choses. Et on va étudier vraiment de quoi il nous est parlé là, de la lèpre. On a vu que la lèpre était le sujet principal de ce texte. Comment discerner la lèpre, si c'est une plaie de lèpre ou si c'est autre chose, sur la peau d'un homme, sur le corps d'un homme? Parce que dans la parole de Dieu, il y a aussi cette image, la lèpre représente le péché. C'est une image du péché. Et dans 1 Jean 1,9 par exemple, il nous est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La lèpre nous déclare impurs. Si nous sommes lépreux, nous devenons impurs. Dans la loi de l'Éternel, c'était comme ça. Et lorsque quelqu'un est pécheur et déclaré pécheur, il est impur aussi. Et il peut être lavé, purifié par le sang de Jésus. La lèpre représente le péché. Alors comment reconnaître la lèpre chez quelqu'un ou le péché chez quelqu'un? On va voir qu'il y a différents symptômes qui nous sont donnés au verset 2 par exemple. Première chose, il nous est dit, s'il y a une tumeur, une dartre ou une tache blanche. Il nous est parlé de trois symptômes. Une tumeur, une dartre, une tache blanche. Et on va voir premièrement ce que peut représenter une tumeur. La tumeur, c'est une grosseur, c'est une anomalie, une masse qui se forme dans le corps. Une anomalie, une grosseur. Et lorsqu'on lit ça, on peut penser de suite à ces expressions, avoir la grosse tête. C'est pas vrai? Vous connaissez cette expression? Vous savez ce que ça veut dire, avoir la grosse tête? Et avoir les chevilles qui enflent. Vous connaissez ces expressions aussi, hein? La grosse tête, les chevilles qui enflent. La tumeur peut nous parler de l'orgueil. L'orgueil. Est-ce que l'orgueil est un péché? Je crois que l'orgueil, c'est la voie du mal. En tout cas, ça nous est dit dans Proverbes chapitre 8, verset 13. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. C'est sûrement pas la voie que Dieu a préparée pour nous. L'orgueil précède la chute. L'orgueil. La tumeur. Alors, quelqu'un disait un jour qu'il y a quatre sortes d'orgueil. En tout cas, il peut y avoir, entre autres, quatre orgueils. L'orgueil de race, l'orgueil de place, l'orgueil de face et l'orgueil de la grâce. Quatre orgueils. L'orgueil de race. Moi, je suis espagnol. Moi, je suis pied noir. Vous savez, l'orgueil de notre origine. Moi, je suis français, sang pur. Quelques-uns peuvent s'enorgueillir de leur origine. Devant Dieu, ça ne tient pas la route. Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Peu importe notre origine. L'orgueil de place. Moi, je suis sur l'estrade. Ça ressemble à rien, ça non plus. Devant Dieu, je ne crois pas que... Si, je suis plus responsable. Il faut que je fasse attention. L'orgueil de place. Mon rang social, PDG de ceci, cela. Est-ce qu'on va mériter quelque chose à cause de notre place? Je ne crois pas. L'orgueil de la place. L'orgueil de face. Vous avez vu mon visage, mon corps. Je suis beau, belle. Hein, on s'enorgueillit et on va prendre soin de son corps, les meilleurs vêtements. Est-ce que c'est bien de bien s'habiller? Je crois que oui, on peut faire honneur à Dieu en s'habillant correctement le jour du Seigneur ou quand on vient dans l'assemblée. Je pense que Jésus nous donne un bon exemple. Il avait un vêtement tellement précieux, tellement beau, tellement, je ne sais pas comment le dire, qu'ils n'ont pas voulu le déchirer. Ils se sont tirés au sort, sa tunique. Jésus était bien habillé. Hein? Alors bien s'habiller, ce n'est pas un péché, mais quelquefois, on s'habille bien pour attirer le regard. Regardez, lunettes de soleil, etc. Un jour, j'ai demandé au Seigneur de me donner une voiture. J'ai dit, Seigneur, j'avais une Citroën Visa, vous voyez, et elle avait 25 ans, elle a toujours démarré, toujours, mais par contre, le chauffage était tombé en panne, en hiver, j'avais froid, plusieurs kilomètres pour aller à mon travail, et pas sécurisé du tout, et même elle commençait à montrer quand même certains signes de faiblesse et de fatigue. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, et j'ai pas l'argent pour avoir une voiture, mais je crois que tu peux m'aider à avoir une voiture. Et puis un jour, quelqu'un me dit, voilà Jérémy, il y a telle voiture, on te l'a fait à tel prix, tu l'as payé en tant de fois, sans intérêt, rien du tout, mais c'était des amis, alors ils ont accepté de la donner comme ça. Et c'était une BMW, rouge, peinture, sur mesure, avec montée tuning, tout machin, comme ils disaient les jeunes, et j'étais vraiment, ah, j'ai dit, waouh, mais non, diesel en plus, diesel, même pas essence, c'était ce que j'avais vraiment demandé, au moins une diesel pour pas consommer trop, pour l'argent quoi. Et voilà que j'avais cette voiture. Et au début, j'ai dit, Seigneur, merci, mais que ça me serve à rendre témoignage, que tu pourvois nos besoins, tout ça. Ouais, ouais. Et puis très vite, j'allais au marché, acheter à 2-3 euros une lunette de soleil, vous voyez. Et puis en roulant, très vite, j'ai perdu la paix. J'ai perdu la paix. Parce que j'ai dit, tu vois, même les bénédictions peuvent être un piège. Merci Seigneur pour les bénédictions, mais est-ce qu'il peut nous les reprendre? Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'on lui laisse faire? Ça, c'est important. Quelquefois, on s'enorgueillit de la face, vous voyez, l'apparence. Et l'orgueil de la grâce. Moi, je suis enfant de Dieu, membre de l'Assemblée de Dieu de Toulouse-Saint-Agne. Je suis sauvé. Vous avez vu ce pécheur-là? Comme cette personne dans la parole de Dieu, Jésus le regarde et il y a un homme qui est là. Tu vois, je jeûne tant de fois par semaine. Je fais ci, je fais ça. Et l'autre à côté, je ne suis pas comme lui. L'orgueil de la grâce. Quelquefois, on confond la grâce. On ne sait pas trop ce que c'est. On croit que, hein, qu'on peut s'enorgueillir des choses qu'on a reçues gratuitement de Dieu. Gratuitement. Oui, quatre orgueils. Faisons attention à cette tumeur qui pointe le bout de son nez, l'orgueil de temps en temps. Hein. La deuxième chose, la dartre. La dartre, au début, c'est une rougeur qui se forme et puis ça se transforme comme une croûte. La peau se distend, se tord comme ça, elle flétrit, ça fait comme une farine, une croûte dessus. Et ça s'appelle une dartre. Et je crois qu'on peut trouver cette image, la dartre, ces choses qui nous ont blessés un jour. On a pris un coup, c'est devenu rouge, mais ça s'est peut-être ouvert, une blessure. ça s'est refermé, mais il y a quand même une croûte, il y a quelque chose. Alors ça paraît tout fermé, ça paraît tout bien, mais dès qu'on appuie, ça fait mal. Et à cause de cette blessure, de quelque chose qu'on a reçu, qu'on nous a fait, ou de cette déception, eh bien il y a comme une amertume qui naît dans notre cœur. On pense à Caïn et Abel, hein. On ne lui a rien fait. C'est juste lui qui n'a pas fait les choses comme Dieu l'aurait souhaité. Dieu a posé un regard favorable sur le frère et lui s'est pris d'orgueil. Il s'est pris d'orgueil, il s'est pris en tout cas de l'amertume. Il a eu de l'amertume dans son cœur, il en est allé jusqu'à tuer son frère. L'amertume, ça paraît fermé, ça paraît tout fini, mais au fond, on n'a pas la paix parce qu'on n'a pas pardonné. On n'a pas pardonné. Et je crois que quelquefois, on a besoin du Seigneur pour être aidé à pardonner. Prenez avec moi dans Hébreux chapitre 12 et verset 15. Hébreux 12, 15. Il est dit ceci. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume peut infecter notre cœur, infecter notre vie. Un jour, j'étais à la sortie d'une église et je saluais les gens. Et une dame est passée et comme c'était la première fois que je la voyais, je la salue et je lui dis, voilà, d'où est-ce que vous venez? J'essaie de faire connaissance. Et elle m'explique qu'elle a quitté l'assemblée il y a de ça des années. Et puis, parce qu'elle m'explique, elle me dit qu'on l'avait blessée. On l'avait blessée dans son cœur, elle avait été meurtrie par des paroles de personnes de l'assemblée, des paroles indélicates. Et alors je lui dis, alors est-ce que vous avez réussi à pardonner? Ah non, ça, jamais! Jamais! J'ai dit, mais vous savez que c'est indispensable d'arriver à pardonner, de crier au Seigneur pour qu'il vous aide à pardonner. Et elle m'a dit, ah non, mais ça, il en est hors de question, puisque c'est comme ça, je ne viens plus. J'ai dit, c'est pas ce que j'étais en train de vous dire. J'ai dit, mais je crois qu'il vous faut déposer ce fardeau, puisque je crois que ça vous détruit. Il vous faut déposer ce fardeau au pied du Seigneur, pour arriver à être déchargé, vivre en paix. L'amertume. Troisième chose que l'on voit, une tache blanche. En anglais, c'est une tache luisante. Combien de fois le péché paraît saint? Il paraît beau, tout blanc, honnête, bon, justifié. Combien de fois le péché dans nos vies ou qui nous est proposé, les tentations qui sont là, elles sont séduisantes, luisantes, belles. On dit la magie blanche. Depuis quand la magie peut être bonne? Dans la parole de Dieu, il est dit que les magiciens, toutes ces personnes sont en abomination aux yeux de Dieu, les voyants. Je suis sûr que quand on voit dans Deutéronome, chapitre 18, verset 10, il nous est dit que Dieu a en horreur tout ce qui est magie, astrologie, devin, toutes ces choses-là. Et il nous faut nous tenir à l'écart de tout cela, car derrière, c'est des puissances démoniaques qui agissent. Et même s'il paraît y avoir un mieux sur le moment, c'est un désastre qui suit après. On a des personnes qui suivent nos réunions en semaine et qui sont les victimes de ce genre de pratiques. Ils sont allés voir des guérisseurs, des magnétiseurs. Et alors que ça paraissait aller mieux sur le moment, aujourd'hui, ils sont prisonniers, pris d'angoisse. Et ils viennent au Seigneur parce qu'ils savent que le Seigneur délivre. Il y a une solution, oui, mais il faut renoncer à ces choses-là. Gardez-vous de ces choses-là. La magie blanche, le mensonge pour la bonne cause. Je ne dis pas la vérité, mais c'est quand même pour la bonne cause, vous comprenez. Il vaut mieux que je mente. Ça paraît beau des fois, ça paraît justifié. Mais derrière, c'est une morsure mortelle. C'est un poison, c'est le péché. Et devant Dieu, le péché nous déclare impur. Je me souviendrai toujours ce casino, hein. Qu'on voit sur la rocade. Je crois que toute ma vie, ça y est, ça m'a marqué. La nuit, on voit les lumières. Bleu, vert, rouge, jaune. Ça bouge, ça... Hein? Comme dans les tombeaux de nuit, ou les boîtes de nuit. Vous voyez? Ça bouge, c'est séduisant, toute cette sensualité, mais au final, c'est quand même un poison. Gardons-nous de ces choses. De Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 10, il nous est parlé de l'Antichrist qui viendra avec la puissance de Satan, avec toute la séduction de l'iniquité, il nous est dit. Toute la séduction de l'iniquité. Et je suis sûr qu'il cherchera à emporter même les enfants de Dieu s'il le peut. C'est marqué ça aussi. Si on n'est pas affermi dans la parole de Dieu, il va nous séduire. La séduction de l'iniquité. Parce que le péché, ça peut être séduisant. Colossiens 2, 4 nous dit qu'il y aura des discours séduisants, et il faut se garder de ces discours aussi, qui sont séduisants. 2 Timothée 3, 5, l'apparence de la piété. Vous savez, quand ça paraît beau, mais au final, derrière, le péché est là, il demeure. Alors, ce troisième symptôme, une tache blanche, ça peut être la lèpre. Quelquefois, on ne remarque pas qu'on est atteint de la lèpre. Un jour, il y a ce cas de ce médecin qui travaillait à Hawaï, dans des camps de lépreux. Il allait voir des lépreux, il allait chercher, et puis il était médecin, il a consacré sa vie vraiment à cette cause, la cause pour les lépreux. Il voulait les soigner, apporter le mieux qu'il pouvait, les soins qu'il pouvait avoir. Et un jour, alors qu'il se fait un bain de pied, sans faire exprès, il fait tomber de l'eau bouillante sur son pied. Et étrangement, il ne ressent aucun mal. Il n'a pas remarqué, il n'a pas senti, il a vu l'eau tomber et il n'a pas senti le mal. Il s'est dit, mince, ça n'était peut-être pas si chaude. Et puis petit à petit, il a vu des cloques apparaître. Parce que l'un des symptômes aussi de la lèpre, qu'on connaît aujourd'hui en tout cas, c'est d'anesthésier les nerfs. Ça tue les nerfs et on ne sent plus. On perd la sensation. Et cet homme s'est brûlé le pied, il ne savait même pas qu'il était lépreux, il l'a remarqué comme ça. On voyait qu'il ne sentait plus rien. Connaissant la maladie, il a dit, je suis lépreux. Il a compris qu'il était atteint de la lèpre, il en est mort. Il en est mort. Voyez, on ne sait pas qu'on est lépreux. On ne sait peut-être pas qu'on est pécheur, tant qu'on ne le dit pas, tant que le Saint-Esprit ne nous convainc pas de pécher, on ne le sait pas. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a des symptômes. Il y a des choses qui nous montrent qu'on est atteint du péché. Et si on veut connaître tous les symptômes, toutes les choses qui peuvent nous montrer qu'on est pécheur, il faut lire la parole, lire l'Évangile, lire la parole de Dieu. Et on va découvrir ce que c'est vraiment le péché. La parole de Dieu est claire et nous dit qu'on est tous pécheurs. Comme ça, on est tous déclarés impurs devant Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Troisièmement, qui peut dire si je suis pur ou impur? Qui peut déclarer ce malade, cette personne qui a une tache, quelque chose, pur ou impur? Qui peut reconnaître véritablement la lèpre? Qui peut donner le verdict? On l'a vu, vers qui ils sont allés? Vers un copain? Un ami? Est-ce que cet homme doit aller vers un ami pour demander, pour être sûr si c'est la lèpre ou pas? Non. Pourtant, il y a bien des amis qui doivent être qualifiés. Un jour, un frère m'a raconté qu'avant sa conversion, il pratiquait justement l'astrologie. Il pratiquait la voyance. Et il est allé demander, puisque ça lui travaillait le cœur, il allait demander une autorité spirituelle si c'était mal de pratiquer la voyance. Et cette personne lui a dit, mais non, du moment que vous ne faites pas payer les gens, c'est pas grave. Vous imaginez? Je crois qu'il ne faut pas se fier aux hommes. Il faut aller directement devant le Seigneur Jésus. Le sacrificateur, il nous est parlé là. Et nous avons un souverain sacrificateur. C'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui peut dire qui est pur, qui est impur. C'est lui qui donne le verdict, qui fait l'état des lieux. Jésus. Quelques-uns ont peut-être peur d'aller vers Jésus. Même après notre conversion, quelquefois, on se dit, oulala, j'ai encore fait telle chose, je suis tombé dans tel piège, j'ai peur de retourner à Jésus. Et bizarrement, on a moins envie de prier, moins envie de lire la Bible, moins envie d'aller à l'église. C'est vrai, non? On est là, on a plus envie de rester tout seul, prier à la maison quelquefois. Même on dit, je vais rester seul à la maison. Puis on ne prie pas, on ne lit pas, on se met à l'écart. Parce qu'on sait que quand on se retrouve devant le Seigneur, on risque d'entendre. Ça, c'est pas bien. Ça, tu vois, tu dois le quitter, tu dois l'abandonner. Et certains ne veulent pas abandonner ce qui les tient. Jésus est doux. Jésus a donné sa vie, il nous aime. Et il est mort à la croix. Et c'est lui qui peut dire, qui peut nous dire, qui peut nous révéler. Oui, tu es pécheur. C'est lui qui va nous convaincre par son esprit. Oui, tu es pécheur, mais j'ai une solution pour toi. Je suis mort à la croix pour toi. Et tu peux être sauvé. Allons à Jésus. Ne cherchons pas des explications autour ou des conseils à des copains qui vont dire selon leur éducation, selon leur intelligence, mais allons directement devant le Seigneur Jésus. Quelqu'un ne sait pas, quelqu'un est nouveau, allez dans votre chambre. Mettez-vous au pied de votre lit à genoux. Adressez-vous à ce Dieu vivant. Adressez-vous à Dieu et dites-lui, voilà, Seigneur, montre-moi. Montre-moi mon péché dans ma vie. Montre-moi, je crois entendre qu'on m'a dit que j'étais pécheur, on m'a dit que j'avais besoin d'être sauvé, pardonné de mes péchés. Eh bien, convainc-moi, je ne sais pas si c'est la vérité, convainc-moi, parle-moi. Je suis sûr que Dieu est capable de se révéler à vous directement dans votre cœur. Deux autres symptômes, le poil blanc et la plaie qui est plus profonde que la peau. Ce poil qui est blanc nous montre que la racine est atteinte. Et le péché, faut pas chercher des causes à l'extérieur. Faut pas chercher des causes dans les circonstances. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi, je suis né dans un pays en guerre. J'ai vu des choses atroces. Donc moi, j'ai pas besoin. Moi, je crois que quand je me présentais devant Dieu, je pourrais lui expliquer que moi, j'ai été moins favorisé que les autres. Je crois qu'il ne faut pas chercher la cause ailleurs. Il faut regarder à la racine. Et la racine de tous les maux, de notre péché, elle est dans notre cœur. Elle est dans notre cœur. Et c'est là que Dieu veut agir. C'est là que Dieu veut transformer notre être tout entier. Plus profond que la peau, nous montre qu'il nous faut examiner de près. C'est à l'intérieur. Quelquefois, on peut regarder notre frère, notre sœur, ou quelqu'un dans la rue, on peut croire qu'il est plein de péché. On peut juger les gens. Vous savez, ça c'est facile pour juger les autres. Et on peut juger, hein, en voyant aux apparences. Ah, c'est comme Élie qui va dire à Anne, tiens, va cuver ton vin ailleurs. Des fois, on peut croire qu'il y a du péché. Il nous faut voir les choses d'un peu plus près. Et je crois que le Seigneur, lui, voit de près. Il est celui qui sonde même nos cœurs, dans l'invisible. Lui, il voit ce qu'il y a à l'intérieur. On continue notre lecture au verset 12. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera, et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. C'est à n'y plus rien comprendre, c'est pas vrai? Au début, il a un petit peu de plaie sur le corps, il est impur, et quand il est tout couvert de plaies, il est pur. Je comprends plus. Si la plaie, c'est l'image du péché, quand il a un petit péché, il est impur, quand il a un gros péché, il est pur. C'est pas ça que ça veut dire, hein? C'est pas ça. Alors que veut dire ce texte? Pourquoi Dieu dit que quand quelqu'un est couvert de lèpre, il devient pur à ses yeux? Pourquoi? Parce que ces deux versets nous parlent de notre conscience. Quand on a conscience qu'en nous, tout est péché, tout est voué au péché, vendu au péché. Quand nous, il n'y a rien de bon, rien qui puisse être sauvé de soi-même. Quand il n'y a plus d'espoir en nous-mêmes et qu'on vient vers le sacrificateur, c'est-à-dire vers Jésus, alors on est déclaré pur. Souvenons-nous de ce brigand à la croix. Le brigand, est-ce qu'il a... Il a dit non, j'ai un peu de péché, ou est-ce qu'il a dit à son voisin, pour nous c'est justice. Pour nous c'est juste ce qui nous arrive. Mais lui, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Simplement, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Jésus peut nous purifier de tous nos péchés. Jésus est celui qui a versé son sang à la croix, et son sang nous purifie, nous lave de tout péché. Son sang lave notre conscience, purifie notre conscience quand on péché, enlève toute culpabilité. Lui peut le faire. Mais il faut d'abord qu'on réalise qu'en nous, nous sommes perdus. Nous ne mériterons rien, jamais rien de Dieu. Notre état d'esprit doit être celui-ci. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de ce Jésus qui, lui, a été pur jusqu'au bout et qui a quand même donné sa vie pour moi, en portant mon péché, nos péchés, à la croix. Jésus est celui qu'il nous faut pour être sauvés. Vous connaissez comment on capture les singes dans certaines forêts? Vous savez comment on fait? Non? On fait des trous dans les arbres, on fait des trous dans des troncs, on met des graines, et on fait un petit trou où la main peut passer. Les singes, ils voient la personne comme ça faire un trou, ils se demandent ce qui se passe, ils voient les graines qui rentrent dans le trou, et ils vont, quand les chasseurs y partent, ils vont comme ça, ils sont curieux, et un singe, il voit les cacahuètes, il voit les graines, alors ils mettent la main, vous voyez, et ils prennent une pleine poignée. Et quand il faut sortir, ils sont bloqués, ils sont tenus par la main, et ils n'ont pas l'idée de lâcher les graines. C'est quand même quelque chose. Et du coup, les chasseurs y passent un peu après, et ils sont à leur merci. Plus qu'à les tuer, à les prendre ou à les capturer. Et quelquefois, est-ce qu'on n'est pas un peu pareil? Excusez-moi, on ne descend pas du singe, hein? Je ne crois pas ça. Mais est-ce que des fois, on ne ressemble pas un peu à ces animaux, hein? C'est-à-dire, notre péché, on l'a et on ne veut pas le lâcher. On l'a, on a un piège, un vice, une passion, quelque chose qui est séduisant, qui nous plaît, et on ne veut surtout pas le lâcher. Et puisqu'on le garde, on est pris au piège. On se retrouve lié. Alors que Jésus est là, tout prêt à nous pardonner, nous délivrer, mais on ne veut pas lâcher ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse et ce qui nous séduit, ce qui nous tente. L'amorce que le diable fait. Soyons sages. Reconnaissons qu'en nous, il n'y a plus rien de bon. Que notre vie sans Jésus, elle est perdue, vouée à l'enfer. Notre éternité, elle est vouée à l'enfer. Notre éternité, ça ne va pas être le ciel si on n'est pas purifié, parce que rien d'impur ne rentrera dans le ciel. Que ce qui est pur. Et même après des années de conversion, je dois continuer à me souvenir qu'en moi, je ne peux rien avec mes propres forces, je ne peux rien avec mes propres efforts, je ne mérite rien. J'ai besoin toujours de mon Sauveur, de mon Seigneur, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon esprit, de partout. Il faut que ce soit lui qui vive en moi et plus moi qui vive. En moi, je n'ai rien de bon. Et c'est ce que M. Gault nous rappelait avec ce grain de blé, même le grain de blé qui est une bonne semence en soi, elle doit mourir. Elle doit mourir. On doit abandonner notre vie. Celui qui perd sa vie pour moi la retrouvera, mais celui qui veut la garder, il la perdra. Il la perdra. Réalisons qu'en nous, il n'y a rien de bon. Qu'est-ce qui va se passer si on vient à Jésus de manière humble, sans mérite, sans montrer nos médailles? Tu vois combien d'années d'humanitaire j'ai fait, combien de soupes j'ai distribuées, combien de sandwichs j'ai fait, combien d'heures j'ai trimé pour faire ça, combien d'argent j'ai donné en aumône, sans rien de tout ça, ça ne vaut rien devant Dieu. Ça, c'est pas ça qui nous sauve en tout cas. Dieu le voit, ça lui plaît, il a trouvé Corneille, qui quand même était un homme qui pratiquait ces choses, qui avait quand même un certain respect pour le Seigneur. Mais il lui fallait plus, il lui fallait le Seigneur Jésus. Et sans mérite, on doit s'approcher de Dieu. Cet homme est là, et il s'approche. On a l'exemple d'un homme qui était couvert de lèpre, qui s'est approché de Jésus. Qu'est-ce qui lui est arrivé d'après vous? On va le lire dans Luc, chapitre 5, et verset 12. Luc 5, 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Il y a encore mieux que d'être déclaré pur simplement. Il y a être guéri. Il y a être guéri. À quoi servirait-il un homme juste de savoir qu'il est sauvé, pardonné de ses péchés, s'il n'est pas délivré déjà sur la terre de son péché? S'il n'arrive pas à vaincre, à avoir le dessus sur le péché, par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit dans sa vie? Dieu veut plus que simplement le salut pour nous. Il veut que sur cette terre, on soit ses lumières qui le représentent, qui soient des témoins, qui brillent et qui attirent les autres à lui. Il veut qu'on soit ces canaux qui font passer le Saint-Esprit, la parole de Dieu, ces canaux saints qui ne sont pas bouchés, obstrués par toutes sortes de pollutions, de péchés, mais qui soient libres, purs et qui laissent passer la grâce de Dieu, qui font couler l'onction de Dieu tout autour de nous, qui sont des témoins efficaces. Dieu ne veut pas simplement dire tes péchés, on les efface puisque tu crois dans le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Dieu veut dire non seulement tu es pardonné, mais je veux te délivrer. Et de jour en jour, je veux te faire des progrès. Je veux t'arracher à tous ces vices, toutes ces passions. Et qu'est-ce qu'il est triste de voir quand un frère, une sœur est encore lié par la cigarette? Alors que ça fait des années qu'il est converti, qu'il s'est donné au Seigneur. C'est triste. Alors que je suis sûr que Dieu peut le délivrer. Dieu peut le faire. Qu'est-ce qu'il est triste de voir, eh bien, que certains d'entre nous, moi le premier, quelquefois on s'emporte facilement. On est irritable, alors que Dieu est prêt à répandre sa paix en nous, sa paix qui va faire que nous-mêmes, on sera des hommes de paix, qui procurent la paix autour de nous. Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit pour nous utiliser et que nous-mêmes, nous soyons des dispensateurs, eh bien des grâces de Dieu, que nous-mêmes nous procurions la paix autour de nous, que nous-mêmes nous soyons des sujets de joie et non de tristesse, que les jeunes, les enfants soient vraiment un encouragement pour leurs parents parce que Dieu aura touché leur cœur et au-delà leur accorder le salut, il leur a donné la délivrance de toutes ces choses qui sont là, qui les tiennent. Qu'il est triste de voir que quelquefois on tombe dans la pornographie, dans toutes ces choses-là, alors que Dieu nous veut purs. Il nous a lavés, l'acte est condamné, l'acte est déchiré. Il a été cloué à la croix, la liste de nos péchés est effacée, elle est déchirée. N'en rajoutons plus, cherchons à honorer Dieu par notre comportement, notre vie. Parce que quand on s'approche de Jésus, reconnaissant nos iniquités, nos fautes, notre péché qui nous couvre de la tête aux pieds, alors Jésus non seulement nous déclare purs, mais il nous guérit aussi. Et la lèpre nous quitte, comme elle l'a fait pour cet homme. Alors ne restons pas simplement à Jésus mon Sauveur, mais ayons soif de Jésus le Seigneur, Jésus le Roi dans ma vie. De moi-même, je n'y arriverai pas à lui obéir. De moi-même, je n'y arriverai pas à renoncer à m'écarter du péché. Mais par sa grâce, par l'œuvre de son Saint-Esprit en moi, parce que je vais me tenir devant lui, parce que je vais trouver du plaisir dans la parole de Dieu, dans sa loi, alors il pourra mettre en moi un bon dépôt, une bonne semence que je pourrai répandre autour de moi. Et je serai un témoin fidèle. J'aurai le salut, mais mais je pourrais aussi l'annoncer aux autres, ne serait-ce que par mon comportement, ne serait-ce que par ma vie. Gloire à Dieu. Restons dans cet état d'esprit. En nous, rien de bon. Le Seigneur est le seul à pouvoir faire un diagnostic efficace et juste. Lui seul peut me déclarer pur malgré les apparences, puisque quand cet homme s'approchait, il était couvert de lèpre. Les autres, les gens autour de lui pouvaient dire sûrement, vous avez vu celui-là ? Ouh, il est mal en point, hein ? Il est mal en point. Et pourtant, il est déclaré pur, malgré les apparences. Peut-être qu'encore il y a des combats. Croyez toujours que Jésus, le sang de Jésus est toujours efficace pour vous libérer, vous pardonner, vous purifier de tout péché. Continuez à croire malgré tout. Et faites confiance au Seigneur. Cherchez la présence de Dieu pour qu'il vous donne la victoire sur ce qui vous enquiquine encore dans votre marche avec le Seigneur. Rejetez ce qui est mauvais. Lui seul peut nous déclarer purs malgré les apparences et croyez qu'il va vous délivrer et vous guérir du péché. Au-delà de la bénédiction physique, matérielle qu'il peut nous apporter, il y a une bénédiction spirituelle, une délivrance du péché. Le pardon, la purification, mais une délivrance quant au péché. Car Jésus purifie, déclare pur, mais en même temps il délivre et il guérit. Amen.
Amen.
Seigneur, nous venons encore ce matin de raconter ton œuvre, de voir que tu es prêt à sauver le monde, que tu as le désir de sauver le monde, qu'il nous faut nous reconnaître impurs devant toi, qu'il nous faut reconnaître et voir que nous sommes voués au péché, morts de la tête aux pieds, qu'il n'y a rien de bon en nous, aucun espoir dans nos forces, dans nos propres efforts, qu'il n'y a que toi qui peux nous sauver. On a raconté de quelle manière encore tu es mort à la croix pour pouvoir nous purifier et nous guérir. Seigneur, je crois qu'un culte, c'est aussi raconter tes merveilles, aussi raconter ce que tu as fait de bon pour nous, raconter combien tu nous as aimés, proclamer que tu as la victoire. C'est ce que j'ai voulu faire encore ce matin, sous ta direction, Seigneur, je le crois. Et je te fais confiance pour nous aider, Seigneur, à réaliser que tu ne veux pas nous accorder un petit salut, mais ce grand salut qui inclut la délivrance quant à notre péché, quant à nos vices, quant à nos manquements, Seigneur. Tu veux nous tirer de là, de la boue du péché, nous mettre à l'écart sur un nouveau chemin, une nouvelle vie. Puissions-nous être ces témoins que tu attends que nous soyons pour te servir efficacement. Ô Seigneur, agis dans cette assemblée, remplis cette assemblée du Saint-Esprit, s'il te plaît, et que ton nom soit encore glorifié, honoré parmi nous. Amen.